Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Zéphirin Quadio.
Bonjour à tous. Dans une demi-heure, vos réactions et vos commentaires sur les suites de l'affaire des contrats frauduleux relatifs à l'acquisition d'un avion présidentiel et à l'achat de matériel militaire au Mali. Le gouvernement s'engage à sanctionner les personnes liées à ces contrats. Il a officiellement saisi le procureur de la commune 3 de Bamako qui, dit-on, a ouvert une information judiciaire. Les autorités ont aussi annoncé toute une série de mesures, des mesures attendues notamment par le FMI. Toutes ces décisions font suite à la publication de deux rapports, des rapports réalisés respectivement par le bureau du vérificateur général et la Cour suprême, des rapports mettant en cause ces contrats. Alors que pensez-vous de la gestion de ce dossier? Quelles conséquences pour la vie politique malienne? Pour en débattre, vous nous rejoignez 33 9 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Mais d'abord et comme chaque jour, vos questions à la rédaction, et vous êtes déjà très nombreux standard. On commence par des questions concernant le projet de réforme de la politique d'immigration aux États-Unis, projet présenté la semaine dernière par le président Barack Obama. Des questions de Saïdou qui est en ligne à Kano, c'est au Nigeria. Bonjour Saïdou.
Bonjour messieurs.
Bienvenue, vous êtes à l'antenne, on écoute vos questions.
Je voudrais réagir sur la décision du président Obama visant la régularisation de 4,5 millions des immigrants aux États-Unis. La question, sur quelles conditions basera-t-elle cette régularisation? Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe pour les sans-papiers qui ne seront pas régularisés?
Effectivement. Oui. Merci beaucoup, Saïdou, pour ces questions. C'est Stéphanie Schuller du service international de la rédaction qui va vous répondre. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Zéphirin, bonjour Saïdou et bonjour à tous.
Alors, pour qu'on comprenne bien, Stéphanie, je rappelle que Barack Obama a effectivement annoncé, c'était la semaine dernière, la régularisation par décret de près de 5 millions d'étrangers en situation irrégulière, des étrangers qui de fait sont menacés d'expulsion. Alors, quelles sont les conditions que doivent remplir les potentiels bénéficiaires de cette mesure?
Alors, Zéphirin, si vous permettez, je voudrais peut-être vite revenir sur ce terme de régularisation qui, je crois, prête à confusion. En fait, il ne s'agit pas du tout de régulariser qui que ce soit, en tout cas dans le terme qu'on entend d'habitude. Dans ce que propose Barack Obama, il n'est pas question qu'un immigré clandestin accède à la nationalité américaine ou qu'il obtienne le statut de résident permanent.
D'accord.
Non, ce que propose Barack Obama, c'est de fournir un permis de travail de 3 ans et pas un jour de plus à un certain groupe d'immigrés clandestins. Et on ne sait pas du tout encore ce qui va se passer pour ces gens après la fin de cet état de grâce. En tout cas, pendant ces 3 ans que durera leur permis, ces immigrés ne pourront plus faire l'objet d'expulsion. Mais pour obtenir ce précieux papier, il faut en effet remplir certaines conditions.
Alors justement, quelles sont ces conditions, Stéphanie?
Alors, pour pouvoir prétendre à ce permis de travail de 3 ans, un immigré sans papier doit d'abord vivre depuis plus de 5 ans aux États-Unis. Ensuite, il faut qu'il ait un enfant qui possède la nationalité américaine ou qu'il est titulaire d'un statut de résident permanent. Si ces deux conditions sont remplies, et uniquement si elles le sont, un immigré clandestin pourra postuler pour obtenir le fameux permis de travail. Une procédure, d'ailleurs, qui sera officiellement lancée au printemps prochain. La Maison-Blanche estime que sur les 11 millions de sans-papiers actuellement sur le sol américain, la moitié y réside depuis plus de 13 ans même, mais seulement 4,5 millions pourront profiter du permis de travail, les autres n'ayant pas d'enfants américains justement.
Alors si je comprends bien, c'est surtout pour soulager ces familles-là alors?
Oui, en fait, soulager les familles d'immigrés exactement.
Oui.
Ouais, tous ces gens qui se trouvent être les parents de citoyens américains, vous voyez, mais qui, eux, sont là de manière clandestine, eh bien, ces parents-là vont pouvoir souffler. Pendant 3 ans, ils n'auront en effet plus cette épée de Damoclès que représente le risque d'être déporté à tout moment au-dessus de leur tête, et ils pourront légalement travailler aux États-Unis. En revanche, et je le redis, je crois que c'est important, ils n'auront pas accès à la nationalité américaine, ni d'ailleurs, c'est intéressant aussi, à une assurance de santé obligatoire telle qu'elle est prévue depuis la réforme du système de santé par Barack Obama, vous vous souvenez. Mmh. Ensuite, Barack Obama a aussi annoncé que les conditions d'accès au programme DACA seront assouplies. DACA, vous vous souvenez, c'est ce fameux programme lancé en 2012. Il offre un permis de séjour aux mineurs qui sont arrivés sur le territoire américain avant 2007 et qui avaient à l'époque moins de 16 ans. Pour l'instant, quelques 600 000 personnes en ont bénéficié. Cette mesure va donc être étendue à environ 260 000 autres personnes arrivées en tant que mineurs avant 2010.
La deuxième question maintenant de Saïdou, c'est qu'est-ce qui se passera pour les sans-papiers qui ne peuvent pas prétendre justement au nouveau permis de travail, à ce nouveau permis de travail ?
Alors, pour les quelques 6 millions et demi d'immigrés clandestins qui ne remplissent pas ces conditions dont je vous ai parlé tout à l'heure, malheureusement, rien ne change, Zéphirin, et ils courent toujours le risque d'être déportés à tout moment. C'est pourquoi de nombreuses associations de défense des droits de l'homme continuent d'ailleurs à réclamer que le Congrès vote une loi qui réglera le système défaillant de l'immigration beaucoup plus en profondeur que ne le fait ce décret présidentiel. Et d'ailleurs, Barack Obama lui-même ne cesse d'appeler le Congrès, et notamment la nouvelle majorité républicaine a voté une loi. Oui. Mais pour l'instant, en tout cas, les conservateurs ne semblent pas encore prêts à s'engager sur ce chemin. Au lieu de ça, ils ont annoncé leur volonté de poursuivre Barack Obama en justice pour avoir agi seul sur l'une des grandes questions de la société américaine d'aujourd'hui, à savoir l'immigration, Zéphira.
Saïdou, je pense que les explications de Stéphanie Schuller répondent à vos interrogations. Merci de votre appel, merci beaucoup. Et puis merci à vous, Stéphanie, et bonne journée.
Bonne journée à vous.
Voilà, on va repasser par le standard où on accueille Lamine qui est en ligne de Ziguinchor au Sénégal pour des questions cette fois sur l'impact des engagements militaires de la France sur son budget, le budget national français. Bonjour Lamine.
Bonjour Monsieur Kouadio et bonjour tout le monde.
Bienvenue, on vous écoute.
Alors. On sait que la France est confrontée à un problème de déficit budgétaire. Et ce déficit budgétaire est surtout dû aux opérations prohibitives à l'étranger avec les interventions. Alors, la question est de savoir ce que la France va faire, étant donné que l'Union européenne a sorti une directive qui fixe le plafond des déficits budgétaires.
Oui.
Donc, ma question est de savoir ce que va faire la France pour se conformer à cette directive. Ça, c'est la première question.
D'accord.
Alors, la deuxième question, est-ce que c'est possible que la France revoie le coût budgétaire de ses opérations à l'étranger ?
De ses opérations militaires, oui.
Oui, des opérations militaires à l'étranger.
Mmh.
Et la dernière question, dans le cas où la France n'arrive pas à se conformer aux directives de l'Union européenne, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle soit sanctionnée? Si oui, quelles sont ces sanctions?
Très bien. Merci. Très intéressant toutes ces questions. Et c'est Olivier Four, spécialiste des questions de défense justement à la rédaction, qui va vous répondre. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors des questions très intéressantes Olivier. Avant de répondre, je voudrais juste te rappeler que le gouvernement a effectivement remanié le mercredi 12 novembre son budget pour 2014 pour présenter les finances publiques du pays sous un meilleur jour, au moment où la Commission européenne doit justement se prononcer sur le budget 2015. Le ministère français des Finances constate que le déficit de l'État sera plus élevé qu'attendu cette année. Alors, cette révision est notamment liée à des recettes fiscales moindres en raison de la stagnation de l'activité économique, bien sûr, mais aussi à des dépassements de dépenses résultant notamment du coût des opérations militaires françaises à l'étranger, comme nous le signalait à l'instant Lamine. Alors, que peut faire la France, justement, pour diminuer son déficit?
Alors, c'est vrai qu'en France, certains commencent effectivement à s'interroger sur le coût de ces opérations militaires à l'étranger, les fameuses OPEX. C'est vrai qu'elles sont nombreuses, Mali, Niger, Tchad, ça c'est l'opération Barkhane, Centrafrique avec Sangaris, Liban sous les couleurs de l'ONU, Afghanistan, on n'en parle plus mais il y a encore 250 soldats français qui vont rentrer vraisemblablement le 15 décembre prochain. Et puis maintenant, le Proche-Orient, l'Irak avec l'opération Chamal, au total ça fait environ 8000 soldats, un peu plus de 8000 soldats français qui sont aujourd'hui engagés en OPEX. Et notre auditeur Lamine l'a rappelé, Bercy Bercy a tiré la sonnette d'alarme. C'était le 11 novembre dernier. Mmh. Alors, ça n'a pas été très bien reçu parce que c'était quand même le jour où la République rendait hommage aux soldats français morts en opération extérieure. Ouais. Et le ministère des Finances a laissé entendre qu'effectivement, les opérations militaires étaient la première cause de dérapage budgétaire en France. Alors, quand on regarde les chiffres, cette année, il y aura 450 millions de surcoûts qui avaient été prévisionnés, qui avaient été provisionnés pour 2014. Mmh. 450 millions, c'était ce qui était prévu, voilà. Ça englobe les primes, le carburant, les munitions, c'est-à-dire on pensait que on aurait besoin que de 450 millions d'euros en 2014 pour faire face à ces opérations. Mmh. Et finalement, il y a eu plus d'opérations que prévu, puisqu'il y a eu notamment la Centrafrique et puis la lutte contre le terrorisme. Qui se poursuit. Et donc au final, cette année, la facture, ce sera plutôt 1 milliard d'euros. Donc ça fait effectivement 600 millions d'euros de différence. Et ça, normalement, c'est payé par ce qu'on appelle un fonds de solidarité interministériel. C'est-à-dire que c'est pas pris sur le budget du ministère de la Défense. Comme ce sont les opérations décidées par le président de la République, par la nation, eh bien, c'est un peu tout le monde qui contribue au financement du surcoût des opérations. Et il faut insister là-dessus parce qu'en fait, on dit souvent les opérations coûtent cher. Oui, mais les militaires s'entraînent. Donc, il y a déjà toute une partie du coût de ces opérations qui serait couvert puisque les avions, par exemple, qui aujourd'hui vont bombarder les positions de l'organisation de l'État islamique en Irak, en temps normal, ils auraient volé, ils seraient entraînés. Donc là, ce qui change,
mais ils se préparent de toute façon.
Voilà, de toutes les manières. Donc là, ce qui change, c'est que cette fois-ci, ils volent, ils consomment peut-être un peu plus de carburant parce qu'ils volent peut-être un peu plus souvent que d'habitude, et puis ils tirent des munitions. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle de surcoût. 1 milliard d'euros, je répète le chiffre pour 2014, sur 31 milliards 4 pour l'ensemble du budget de la défense, hors pension, c'est-à-dire le fonctionnement, les salaires, les équipements.
Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces surcoûts ?
Alors, ce qui se cache aussi derrière ces surcoûts, c'est l'usure prématurée des matériels. Alors là, ça concerne plutôt les militaires et pas tellement Bercy. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous vous servez de vos blindés en plein désert au nord du Mali par 50 degrés à l'ombre, ça s'use plus vite que quand vous les laissez dans une caserne en France. Donc ça aussi, ça coûte cher. C'est difficilement quantifiable, mais par exemple, il faut savoir que l'armée de terre attend aujourd'hui la remise en service de certains matériels qui avaient été déployés en Afghanistan. Or, les troupes combattantes françaises ont quitté ce pays il y a 2 ans maintenant. Donc, il y a encore du matériel qui était en Afghanistan, qui attend d'être remis au goût du jour, reconditionné, pour être prêt à repartir, et qui sont encore dans des stocks aujourd'hui.
Dans des hangars.
Donc, comment faire baisser ce coût des opérations extérieures qui se répercutent sur le budget de la France? Alors, effectivement, une solution, c'est un peu ce que dit Lamine, serait de dire, la France réduit son influence dans le monde, elle réduit la voilure, elle ne va pas dans tel ou tel pays, elle peut réduire aussi sa présence dans des pays où elle est déjà déployée. Par exemple, elle pourrait dire, au Liban, le contingent français de la FINUL, c'est à peu près 900 hommes, si mes souvenirs sont bons, on le réduit à 400. Ouais. En Centrafrique, les Français s'en vont plutôt que prévu. Ça serait une manière de voir. Après, certains commencent à dire aussi que ces opérations payées par l'armée française, finalement, elles bénéficient à l'ensemble des pays européens. Donc, ils disent, c'est un peu facile pour les Européens de nous dire attention, vous respectez pas le budget, vous êtes pas dans les clous, et en même temps certains commencent à dire en France ces opérations, la France les fait pour l'ensemble de la sécurité européenne, donc il faudrait d'une certaine manière qu'elle puisse être récompensée ou en tout cas que ça puisse entrer en ligne de compte.
Est-ce que c'est un argument qui peut être entendu justement par les partenaires européens
de Paris? Ça se discute. Alors c'est vrai que l'effort en matière de défense n'est pas partagé, le fardeau est pas partagé exactement de la même manière. Oui. Et c'est vrai qu'en France, on commence à l'entendre par la voix de François Hollande, par la voix du ministre des Affaires étrangères, de dire est-ce que finalement on pourrait pas décompter du budget, peut-être pas effectivement tout le budget de la défense, mais au moins le budget qui correspondrait aux opérations extérieures. Et dans ce cas-là, on parle d'un milliard, ça ferait 1 milliard en moins, et on pourrait presque retomber dans les clous.
Oui.
Voilà, ce qu'il faut bien voir, et ça on en a déjà parlé sur notre antenne, c'est que il y a quand même en Europe de grosses différences sur le je parlais tout à l'heure du fardeau, mais également sur les budgets. Vous avez des pays comme la France, comme la Grande-Bretagne, comme la Pologne, qui dépensent à peu près 2% de leur produit intérieur brut, consacrent à peu près 2% de leur produit intérieur brut à leurs dépenses de défense. Et puis vous avez des pays comme l'Allemagne, pour qui c'est plutôt 1,4%. Ouais. Donc effectivement, quand on dépense moins, on est un peu plus dans les clous côté dépassement budgétaire. Ouais. Donc voilà, c'est une affaire complexe, mais c'est vrai aussi que le débat a été porté. Vous voyez bien qu'il y a un débat interne en France, entre Bercy qui dit au ministère de la Défense, faites attention, vous dépensez trop, et de toute façon le ministère de la Défense va faire des efforts aussi. Alors, après, ça se répercute aussi en termes d'équipement, c'est-à-dire qu'on a des programmes qui sont étalés sur des années. Et puis un débat européen où les Français disent, attendez, nous on fait peut-être un peu le boulot pour les autres, quand les Français mènent des opérations antiterroristes au nord du Mali, c'est aussi pour éviter qu'il y ait des prises d'otages, mais les prises d'otages, on l'a vu par le passé, elles ont concerné tout aussi bien des Espagnols, des Italiens, des Allemands, des Canadiens, voilà. Donc il y a un peu cette idée-là, ce débat en interne en France, et puis le débat aussi à l'échelle européenne.
Alors justement, si la France ne parvient pas à réduire son budget, à réduire la voilure, elle s'expose en principe à des sanctions de l'Union européenne.
Oui, la France expose ce qu'on appelle une rectification de budget. En clair, l'UE pourrait cadrer plus clairement le budget français en disant faites plus d'économies dans tel ou tel domaine, voire une sanction financière, ce serait une amende qui pourrait être de 0,2% du PIB. En réalité, les experts disent que c'est fortement improbable. Je vous rappelle quand même que ce qui s'est passé cette semaine, Bruxelles a décidé de reporter au printemps prochain son verdict justement sur le budget de la France, mais a demandé à Paris de faire davantage d'efforts pour réduire le déficit.
Bon. Voilà Lamine, ce qu'on pouvait répondre à vos questions. En tout cas, merci de nous écouter à Ziguinchor au Sénégal. Autre sujet qui a retenu également votre attention cette semaine, le différend entre la France et la Russie à propos du contrat des navires de guerre Mistral, dont Paris a reporté les livraisons. C'est le sujet sur lequel Youssouf souhaite poser des questions. Youssouf, qui est à Yaoundé au Cameroun. Bonjour Youssouf.
Oui, bonjour, Jacqueline. Bonjour à tous les auditeurs.
Bienvenue.
Alors, j'aimerais savoir que concernant le Mistral, la livraison de Mistral par la France à la Russie. Monsieur Valls avait dit qu'il faut que la Russie remplisse ou respecte les conditions avant que le Mistral soit livré. Je suis là pour vous dire. Et si la Russie remplit ou respecte les conditions, si vous voulez, est-ce qu'il n'y aura pas des impacts sur la crise ukrainienne et en Europe particulièrement? Je finis en vous disant, que dit M. Hollande, c'est tout à faire.
Très bien. Merci beaucoup, Youssouf. Olivier.
Ouais, alors rapidement, vous l'avez entendu, François Hollande l'a dit et répété, il souhaite que le cessez-le-feu prévu par l'accord de Minsk signé le 5 septembre soit entièrement respecté. C'est la condition qui est posée pour la livraison de ce bateau. Mmh. Alors cela dit, c'est quand même assez flou parce qu'un cessez-le-feu, ça peut tenir quelques jours, quelques semaines et puis être violé plus tard.
Ouais.
Et le bateau, une fois qu'il aura été livré, il sera dans la marine russe et il y restera. Donc bon, on voit bien dans cette affaire que la France attend clairement le moment propice pour laisser partir ce bateau de 21 000 tonnes. Il y avait eu un creux, une fenêtre de tir pour la livraison en octobre, et puis malheureusement la situation a empiré en Ukraine, donc ça n'a pas été possible ces derniers temps. La question, c'était aussi l'impact de cette livraison sur la crise ukrainienne. Alors j'ai envie de vous dire, d'un point de vue purement militaire, l'impact c'est nul, zéro. Parce qu'en fait, ce bateau, il servira pas à aller faire la guerre en Ukraine. Les Russes, les Russes, ils sont déjà en Crimée, ils sont aux frontières est de l'Ukraine, ils opèrent par le biais de milices ou de forces prépositionnées de leur côté de la frontière. Donc, pour l'instant, je vois pas du tout ce bateau débarquer du matériel en Crimée ou en Ukraine. Alors, attention, à l'avenir, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que les pays baltes freinent des quatre fers pour cette affaire-là. Pour les pays baltes ou pour la Géorgie, là effectivement les Russes auraient besoin de moyens de projection importants et ce type de bateau en fait partie. Puis enfin, faut quand même pas oublier aussi une chose. C'est que, et c'est vrai pour la marine française comme pour la marine russe ou les autres marines, quand vous recevez un bateau, c'est pas comme vous achetez comme quand vous achetez votre voiture chez un concessionnaire, le bateau, il faut quand même encore quelques années pour se l'approprier, pour être sûr qu'il fonctionne bien, pour intégrer ce qui va dedans, en l'occurrence les barges de débarquement, les hydroglisseurs, les hélicoptères, etc. Donc, conséquence directe sur la crise ukrainienne d'un point de vue tactique, nulle. Après, d'un point de vue symbolique, c'est sûr que c'est difficile de livrer un bateau de guerre à un pays qui est en train de mener la guerre à son voisin.
Voilà, merci infiniment Olivier Faure pour toutes ces explications. Merci à vous, Youssouf, de nous écouter à Yaoundé. On se retrouve dans 10 minutes après le journal.